Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est vraiment une scène étonnante que nous venons d'entendre, mes bien chers frères, et étonnante depuis le départ, puisqu'il est dit dès la première phrase que Jésus a été au désert sous la motion du Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Ut tentaretur a diabolo. Et tout se passe comme si Dieu montait un piège pour prendre le démon. Et effectivement, c'est un des aspects du mystère de l'incarnation. Jésus est le nouvel Adam, le nouveau chef de l'humanité, qui va nous permettre de prendre notre revanche sur le tentateur, mais il vient le vaincre, non en l'écrasant sous sa toute-puissance, mais au contraire, en tendant un piège à sa méchanceté. Et dans ce piège, Jésus se fait lui-même l'appât, l'appât divin. Si le démon ose l'attaquer, s'il pousse l'injustice jusqu'à le mettre à mort, il sera vaincu au moment même où il pensera se débarrasser de son adversaire, car c'est précisément par son sacrifice sur la croix que Jésus veut racheter les hommes, et c'est en souffrant la mort qu'il veut pouvoir la vaincre ensuite en ressuscitant. Jésus est venu pour une revanche, et le démon s'en doute, comme un chien qui vient flairer et renifler à plusieurs reprises avec méfiance une nourriture qui lui paraît à la fois tentante et douteuse. Ainsi le diable épie les moindres gestes et les moindres paroles de cet homme qui lui paraît étrange et en qui il devine son grand adversaire. Pourtant, dans son orgueil, le diable s'imagine volontiers qu'il sera vainqueur de ce nouveau champion de l'humanité. Il a berné si facilement le premier Adam. Le deuxième sera peut-être un peu plus coriace que le premier, mais ce sera tout de même un homme, un de ces lourdeaux faits de chair et de sang, avec une intelligence si lente, si laborieuse et si limitée. Évidemment, le risque, ce serait que Dieu lui-même s'en mêle et qu'il vienne envoyer son propre fils pour mener le combat. Et ce risque, le démon ne le méconnaît pas. Il lui a même semblé à plusieurs reprises deviner ce plan dans les annonces et les prophéties divines. Mais il a beaucoup de peine à l'admettre parce qu'il ne voit pas comment Dieu pourrait s'abaisser ainsi. Et à l'époque de notre Seigneur, sur cette question, l'enfer est comme divisé et son chef lui-même hésite. Il lui semble parfois discerner une nature divine en ce mystérieux Jésus de Nazareth, mais aussitôt il se rassure. Qu'a donc fait ce charpentier depuis 30 ans qu'il est sur terre? Et jusqu'au bout, le démon, dans son orgueil, sera déconcerté et désorienté par l'humilité du Christ. C'est cet inconcevable abaissement qui l'aveugle, qui le trompe, qui l'empêche d'admettre de façon ferme qu'il s'agisse vraiment du Fils de Dieu et qui ainsi l'incitera finalement à l'irréparable lors de la Passion. En attendant, aujourd'hui, on voit le démon se livrer aux exercices d'approche et Jésus s'y soumet. On peut même dire que en s'isolant, en jeûnant, en manifestant la faim qui l'affaiblit, Jésus s'offre presque aux sollicitations du tentateur. On peut même dire qu'il le provoque, car Jésus veut ce premier combat au seuil de sa vie publique. Comme d'habitude, le démon attaque d'abord sur le moins important et sous apparence de bien. On retrouve les trois étapes de la tentation au jardin d'Éden, progressant peu à peu du plus léger vers le très grave. D'abord, le souci de la nourriture du corps, en une mesure qui paraît parfaitement légitime et qui pourtant fausse la réalité. C'est la question du serpent à Ève. Pourquoi donc Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les fruits du jardin ? Ensuite, dans un deuxième temps, plus grave, c'est la tentation de vaine gloire, et particulièrement se satisfaire de son intelligence et de ses connaissances. Vos yeux s'ouvriront. Enfin, troisièmement, sans aucune mesure, il se porte aux extrêmes. Un orgueil proprement délirant et blasphématoire. Vous serez comme des dieux, maîtres du bien et du mal. On pourrait, mes frères, retrouver ces trois étapes dans bien des chutes personnelles et même dans l'évolution de notre société. On en est malheureusement aujourd'hui en Europe à la troisième étape après celle du désir des plaisirs, désir immodéré du plaisir, puis de la satisfaction en soi-même, la vaine gloire, est venue l'étape de l'orgueil blasphématoire et délirant, l'homme se veut comme Dieu. Et étrangement, Satan va soumettre notre Seigneur Jésus-Christ aux mêmes trois tentations. C'est étrange parce qu'il aurait pu se rendre compte que les deux, la première et la deuxième n'avaient pas fonctionné et éviter à notre Seigneur la troisième, mais non. Il commence donc par l'aborder lorsqu'il le voit affaibli par la faim en lui proposant de changer des pierres en pain, ce qui en soi ne serait pas un péché. Il n'y aurait aucun péché à manger de la part de notre Seigneur, surtout manger du pain au bout de 40 jours de jeûne. Et néanmoins, il y aurait là un désordre, puisque notre Seigneur ne fait des miracles que par charité et lorsqu'il est impossible de subvenir autrement aux besoins. Or, ici, il ne serait pas nécessaire de procéder à un miracle. Notre Seigneur pourrait se procurer de la nourriture autrement. Donc, il y a déjà un désordre, mais qui paraît assez minime. Ensuite, la deuxième tentation est la tentation de vaine gloire, essayer de se montrer, et en particulier de se montrer depuis le sommet du temple, en se jetant du sommet du temple, de façon à ce que les anges portent le Messie en leurs mains, ce qui manifestera à tout le monde sa gloire et sa puissance. Enfin, la troisième tentation ne se fait même plus sous apparence de bien. Dans les premières, Satan a commencé par dire « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. » Il peut difficilement employer la même formule lorsqu'il incite notre Seigneur à tomber devant lui le démon pour l'adorer et espérer ainsi en recevoir le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. C'est la tentation de l'orgueil, l'orgueil blasphématoire. Notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, riposte de la même manière en faisant intervenir la parole de Dieu et une vérité de foi. Et c'est en cela qu'il nous donne un exemple. Car ce n'est pas uniquement pour réparer la faute d'Adam que notre Seigneur a voulu ainsi être tenté par le démon au seuil de sa vie publique. Il veut également nous mériter la force de résister nous-mêmes aux différentes tentations. Et c'est le premier but de cette tentation qu'il a subie, en ripostant, en répondant, en résistant au démon, il nous mérite des forces. Deuxièmement, il nous fournit un avertissement, puisque si même lui, qui est le Fils de Dieu, qui est parfaitement saint, a ainsi été sollicité par le démon, n'allons pas nous imaginer que nous échapperons nous-mêmes, à un moment ou à un autre, à ces tentations. Troisièmement, notre Seigneur veut nous fournir une preuve de sa réelle humanité et un motif de confiance en sa miséricorde, puisque sachant qu'il a connues de l'intérieur, ces mêmes épreuves que nous, nous serons plus portés à savoir qu'il nous comprend et qu'il va nous aider. Et surtout, quatrièmement, il veut nous fournir un exemple et un enseignement pratique sur la façon de résister. Et c'est ici que nous pouvons prendre quelques leçons pour notre carême. Le carême est déjà commencé il y a maintenant 3 jours. J'espère que nous avons tous pris quelques résolutions, sinon il faut les prendre dès aujourd'hui, il ne faut pas tarder davantage. Il y a une sainte quarantaine, mais si on ne la commence pas dès le départ, on risque de ne pas pouvoir profiter des grâces de Pâques. Et parmi les exemples que nous donne notre Seigneur, il y a d'une part ce jeûne de 40 jours, qui est évidemment le modèle de notre sainte quarantaine. La Sainte Église, pendant très longtemps, a ordonné aux fidèles de pratiquer ce jeûne pendant tout le carême. Le jeûne, c'est-à-dire ne prendre qu'un seul repas dans la journée. Elle a aujourd'hui beaucoup mitigé sa discipline, puisque le jeûne n'est plus obligatoire que le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il reste conseillé entre les deux, et notamment, si on ne peut pas jeûner tous les jours, notamment les vendredis de carême. Mais il n'est pas absolument obligatoire. En tout cas, il est absolument certain que nous devons faire des efforts pour aller dans ce sens-là, des efforts adaptés à notre santé, et que le carême doit être une période de mortification sur la nourriture. Mais notre Seigneur veut aussi nous donner un deuxième exemple, qui est précisément la façon dont il résiste aux démons, et chaque fois, il fait intervenir une vérité de foi en invoquant la parole de Dieu. Le carême n'est donc pas seulement un temps de jeûne et de pénitence corporelle, c'est aussi un temps de prière et d'approfondissement de la foi, particulièrement en lisant la Sainte Écriture ou de pieux écrits qui pourront nous aider à mieux connaître Dieu. Il y a, de ce point de vue-là, un moyen tout simple qui nous est donné par la Sainte Église dans la liturgie, puisqu'il y a pour chaque jour du carême une messe propre. Dans votre missel, vous trouverez dès demain la messe du lundi de la première semaine de carême, suivie du mardi, etc., avec des modèles de prière, les oraisons, et des enseignements dans les lectures, épîtres et évangiles. Ce peut être au moins le minimum que nous fassions pendant le carême pour nous aider dans la vie de prière, de prendre le temps, soit le matin, soit la veille au soir, de lire ces textes de la messe du dimanche de carême pour bien rentrer dans l'esprit de la liturgie et bien imiter notre Seigneur qui nous a donné la façon de résister aux tentations du démon. Et la première façon, c'est faire intervenir la vérité divine. Que la très sainte Vierge Marie nous aide à bien prendre ses résolutions et ensuite à les tenir pour pouvoir participer pleinement à la joie de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.